Alors, pour cette dernière interview à Tempo Latino édition 2023, Alternant FM s'intéresse aux artistes, mais il s'intéresse aussi aux bénévoles et aux membres de l'organisation et aux gens qui s'investissent pour la bonne organisation et le bon déroulement de ce très beau festival. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir sur nos ondes Maya Roy, qui va nous parler un petit peu de son parcours au sein de Tempo Latino et de sa vie. Donc Maya, déjà, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices.
Merci. On souhaiterait te poser une première question, c'est une présentation de ta personne à travers les liens que tu entretiens à travers ce festival Tempo Latino qui a maintenant 28 éditions et aussi 30 ans d'existence.
Mais écoute, je travaillais en radio, je faisais des émissions de radio sur une radio d'abord sur Aix-Marseille et ensuite à Paris. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'ai entendu parler. J'ai commencé à faire de la radio et j'ai entendu parler de un festival dans le sud qui avait une espèce de fou dans un village complètement perdu du Gers, qui était totalement fanatique de salsa. Moi, je faisais des émissions spécialisées salsa, musique cubaine. Donc, et que ce cinglé, il montait un festival, voilà. Donc, tout le monde disait que c'était un fou, parce que Vic Fezensac, bon, tu as dû le dire à tes auditeurs, c'est un petit village. Ouais. Et donc, j'ai pris contact avec le fou en question, et voilà, et on a parlé de nos passions, parce que moi, j'étais une passionnée, je travaillais comme bénévole, ouais. Je n'étais pas payée pour faire ce que je faisais. J'avais beaucoup voyagé dans Porto Rico, Saint-Domingue et Cuba, donc un peu la Colombie, et donc j'avais beaucoup de matériel musical, je veux dire, j'avais rapporté des tas de disques, j'avais rencontré des musiciens puisque j'y allais poursuivre ma passion. Et donc voilà, j'ai participé dès le départ à la fondation du festival. La toute première année, ça s'était monté avec des amis, il y avait un pianiste cubain qui était à Paris, qui était un ami, et sa femme manager était une amie à moi. Donc on a bricolé quelque chose, il avait des tas de contacts à Cuba même, et il y a eu une belle édition autour de cette musique. Voilà, ça a commencé comme ça, mais c'était encore artisanal, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu vois aujourd'hui et tout ça. Et l'année suivante, voilà, dans les 3-4 premières années, le festival a démarré en 93. 94,
14.
Oui, 94, puisqu'il y a eu les deux années, là on dit la 30e
ouais,
édition, mais en fait il y a eu deux années, ouais, où il n'y a pas eu de festival à cause du Covid.
Exact.
Donc les années suivantes, comme j'avais des contacts en salsa, bon, comme El Gran Combo, comme La Sonora Ponceña, c'est-à-dire des immenses orchestres de tradition. Voilà, on a bricolé avec ça, je leur ai donné un peu toutes les adresses et après ce que j'avais, on a des très beaux souvenirs de ça au départ. Ouais, et puis ensuite, le festival s'est débrouillé vraiment, vraiment tout seul. Et pendant très longtemps, ça a été un festival qui était vraiment pratiquement que salsa. C'était quand même la grande époque. Après, il y a eu le Buena Vista Social Club, donc Cuba est devenu aussi à la mode. Donc, comme j'avais des contacts à Cuba, mais le festival, depuis 10-15 ans, se débrouille vraiment totalement tout seul. Moi, j'y participe toujours, mais on en parlera après.
Ouais.
Mais là, maintenant, ils sont autonomes.
C'est
sinon, c'est un festival qui est entièrement tenu grâce à des bénévoles,
ouais,
mais qui dépend entièrement de la billetterie. Et ça parce qu'il y a quelques subventions, mais il y a la concurrence avec Marciac qui est tout à côté, le festival de jazz de Marciac.
D'accord.
Et comme c'est les mêmes sources de subventions, effectivement, Marciac rafle quand même beaucoup plus que Tempo. Et bon, il faut saluer vraiment parce qu'ils ont vraiment beaucoup de courage d'avoir continué. C'est grâce à toute l'activité de ces bénévoles que ça peut se continuer et aux connaissances musicales aussi du directeur et du directeur musical, Éric Dufaux.
Alors ce fou, c'est qui ?
Ben ce fou, c'est Éric Dufaux, directeur musical, qui était... Ah oui, c'était lui qui était directeur pendant très longtemps. Il a passé la main comme directeur, mais il reste directeur artistique. Et c'est toujours lui qui, bon, bien sûr, avec l'accord d'un petit conseil d'administration, ça ne s'appelle pas comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'association, mais il y a quand même un noyau, le bureau... Qui discutent collectivement. Il y a eu souvent des débats aussi autour des programmations.
Ouais, complètement. Alors justement, tu parlais un peu des subventions. Est-ce que la dimension politique a un regard ? Est-ce qu'ils sont aussi présents ? Alors on sait qu'il y a souvent des moments d'ouverture et de fermeture de festivals où justement la mairie, la région peut être conviée. De ton expérience, quel regard ils portent sur ce festival ?
Je pense que ça a un peu évolué, fluctué au fil des changements de majorité et au départemental. J'ai pas trop suivi, moi personnellement, le côté politique régional parce que c'est toujours un sujet très délicat.
J'imagine.
Et bon, il y a des oppositions suivant que la gauche est majoritaire ou que c'est la droite qui le devient. La mairie, c'est encore autre chose, parce que les subventions, c'est au niveau régional. Et donc, c'est pas les mêmes majorités forcément niveau local, au niveau régional. Donc, en fait, le festival est toujours pris au milieu de tout ça. Et la couleur politique, je crois que dans le comité d'organisation, les couleurs politiques sont aussi extrêmement différentes. Donc, ils dépendent vraiment. Et là, quand même, globalement, l'heure n'est pas à accorder des subventions mirifiques à la culture. Il y a une fermeture généralisée, y compris ici, du point de vue des subventions accordées à la culture, parce qu'il faut serrer la ceinture, parce que c'est pas prioritaire, parce que voilà. L'enveloppe est de moins en moins importante et il y a toujours autant de festivals, sinon plus, ou d'activités culturelles à financer. Et je pense que si la couleur de la direction du festival n'est pas la bonne, ça doit intervenir. Mais là, je peux vraiment pas en dire plus. C'est pas que je veux pas, c'est que je m'y suis jamais intéressée parce que c'est un peu panier de crabe et qu'il vaut mieux pas trop savoir là-dessus.
En tout cas,
je sais que ça a une importance.
Bien sûr, après, c'est vrai, comme tu l'as dit, l'importance de la puissance du bénévolat et de l'amour qu'on a sur cette culture nous permet de nous rassembler et de faire tenir finalement ce festival depuis toutes ces années aussi.
Hein. C'est tout à fait.
C'est sûr. Alors Maya, tu exerces encore des missions, tu en as exercé, mais tu en exerces toujours au sein de ce festival. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette ou ces missions que tu exerces encore ?
Alors, après avoir été marraine du festival, mais surtout avoir... Pendant très longtemps, j'ai présenté tous les spectacles. J'ai beaucoup servi de traductrice. Ça, je le fais encore un peu. Mais ce qui est bien, c'est que précisément, on a de moins en moins besoin de moi. Au sens où il y a de plus en plus de jeunes qui se sont investis dans le festival et qui justement parlent l'espagnol et tout ça. Parce qu'au départ, il n'y avait pas tant de gens que ça qui parlaient espagnol. Donc il y avait un peu des problèmes donc j'étais sans arrêt en train de traduire. Et là, c'est vraiment bien parce que moi, j'ai été surprise d'année en année parce que de plus en plus de jeunes se sont investis. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que c'est des forces vives. Et que justement, apprendre l'espagnol, c'est une motivation pour pouvoir faire des choses ici. Donc, moi, j'ai toujours servi un peu de lien entre tout le monde. S'il y avait un souci avec des musiciens on m'envoyait pour apaiser les choses. Je connais énormément des musiciens qui ont passé ici. Voilà, que j'ai rencontré là-bas chez eux, que ce soit à Porto Rico, que ce soit à New York, en Colombie, en Cuba, bien sûr. Et donc, ça fait un autre rapport. Il y en a beaucoup que j'ai reçus du temps où je faisais, parce qu'il y a 3 ans que j'ai abandonné les émissions de musique. Jusque-là, je les recevais, je faisais la même chose que toi. J'interviewais les musiciens. Donc, ça crée des liens tout à fait spéciaux. Et là, aujourd'hui, je ne fais plus de radio. Je dois dire que je suis reconnaissante au festival, parce que l'expérience qu'on a, tu verras peut-être un jour, dès qu'on disparaît des médias c'était Maya, l'émission de Maya et Maya et Maya, et le jour où vous n'êtes plus là, alors il n'y a plus personne qui se souvient de vous. Et ici, là maintenant, je continue à être invitée par le festival, alors que je mets des guillemets, mais je ne leur sers plus à rien, sens où je ne leur fais plus de pub sur à la radio. Il y a cette espèce de chose d'amitié qui reste, parce que pour moi c'est un privilège. Je le ressens comme un privilège, pas du tout comme quelque chose qui me serait dû, parce que et c'est un immense plaisir de revenir, de retrouver tous les bénévoles, les anciens, les jeunes. Peut-être tu as eu cette expérience qu'on te reconnaît et qu'on te dit comment tu vas.
J'ai que 10 ans de festival Maya, c'est pas assez.
C'est pas assez. Bon,
pas Tempo Latino, c'est que la deuxième.
C'est peut-être aussi là aujourd'hui, il y a une dame là, il y a eu un concert magnifique dans une église. Et elle m'a fait rire, la dame, elle me dit, mais elle était plus jeune. Mais il y avait une dame qui présentait toujours. C'est vous ? Alors, et elle dit, reconnu. Elle était plus jeune. Je lui dis, mais madame, écoutez, oui, j'ai vieilli, mais c'était bien moi.
C'est extraordinaire.
Et donc là, maintenant, je suis là. Je viens. Si on me demande de faire quelque chose, je fais. Je navigue. Mais réellement, cette année, c'est l'année où j'ai fait le moins de choses. En même temps, je parle musique avec les gens, je fais des petites interviews à droite et à gauche, des petits sons et tout ça,
Alors du coup, le fait que tu sois entre guillemets un peu extraite par rapport aux missions que tu avais avant par rapport à la radio, le festival te propose encore de monter sur scène pour faire des présentations. Je sais que l'année dernière, en 2022, on a reçu des grands, très grands groupes comme Los Van Van, qui étaient attendus depuis des années par la production artistique. Il y avait aussi Isaac Delgado, Alan Pérez, donc t'es monté sur scène. Le fait d'être un peu extraite, est-ce que ça, quelque part, quand tu montes sur scène, ça t'a enlevé un peu une adrénaline? Ça t'a, je dirais pas libéré, mais comment tu ressens les choses quand tu montes sur scène par rapport à avant?
Pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai jamais eu peur de monter sur scène. Déjà parce que j'étais prof, comme je pense un certain nombre de gens qu'on connaît. Donc déjà, il y a l'habitude de parler. J'étais dans différentes choses qui faisaient que j'ai toujours parlé. Et puis parler à la radio, au micro, moi, je préparais pas un papier écrit que je lisais. Donc j'ai toujours fait de l'invention. Non, les interviews, les questions, elles étaient écrites, comme les tiennes. Mais après, ce que je développais, quand je faisais une émission, que je passais des disques, je racontais toujours quelque chose sur l'histoire de ce disque, ou l'histoire du rythme, ou l'histoire de... pas pendant des heures. Et puis, j'avais une émission spécialisée précisément où je racontais l'histoire d'un orchestre, donc qui était à part de l'émission « Amusez-vous, dansez, vive la salsa ». C'est toujours un plaisir, je sais pas comment dire, j'ai jamais eu la trouille, je prépare souvent quelque chose, je dis complètement autre chose, c'est l'inspiration du moment, et les gens, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles appréciaient qu'on dise 3-4 petites choses rapidement. sur l'histoire de ce qu'on va voir sur scène, voilà. Ou sur les rythmes, enfin voilà. Donc je pense que c'est utile. Mais là, bon, si on me dit de venir sur scène, j'y vais. Si on me dit rien, j'y vais pas. Et tout va très bien.
C'est prévu là, peut-être ce soir ou pas?
C'est la excellencia, mais c'est un point d'interrogation parce que ça dépend toujours beaucoup de l'humeur du moment.
Des artistes ou de toi?
Non, pas des artistes, ni de moi, mais du directeur musical, voilà. D'Eric. Et Eric, il y a des moments où c'est oui, il y a des moments où il n'y pense pas. Donc cette année, bon, j'ai été exemptée de tout.
Pour l'instant.
Mais c'est... Parce que la Excellencia, bon, c'est un orchestre de New York, c'est un orchestre qui est déjà venu ici il y a très très longtemps.
Ah, ouais.
Il le voulait vraiment, c'était vraiment un désir qui... Éric Dufoy avait que ça soit un orchestre de salsa. C'est un orchestre qui parle beaucoup de ce qui se passe réellement pour la communauté latine à New York, qui a un discours social très, très fort et qui en plus musicalement, c'est vraiment la salsa authentique de l'époque, la salsa de la rue, quoi. C'est pas les arrangements romanticaux ennuyeux, je dirais.
Ouais.
C'est la salsa pure et dure, avec d'excellents musiciens, un très beau chanteur. Et voilà, donc c'était un de ses désirs à lui. Donc je ne sais pas, soit je serai à ses côtés, soit je ne sais pas. Mais de toute façon, dans les loges, les musiciens, on se parle. Et donc, tu vois bien.
C'est riche encore en émotions.
Je sais pas. Mais bon, le public de Vic, c'est un public quand même assez magnifique.
Ouais.
Et qui répond totalement à... Il y a un échange toujours avec ce public-là.
Surtout qu'on voit que ça vient aussi d'Espagne, hein, notamment. On croise beaucoup d'Espagnols là dans les rues, mais aussi dans l'enceinte du festival et des arènes et des scènes. Tu l'as constaté ça aussi les années passant?
Oui, oui. Et il y a plusieurs années, il y avait des radios de Barcelone qui venaient. Il y avait une grande personnalité de Barcelone qui était un Colombien, qui était quelqu'un de magnifique, qui était... ne me demande pas son nom, parce que dès qu'on me demande un nom, je ne sais pas le dire.
Si
je
le
dirai quand... voilà. Et qui animait beaucoup, qui avait une radio, qui connaissait parfaitement la musique, et avec qui ramenait beaucoup de monde. Et il y a toujours beaucoup, c'est surtout des Catalans, hein, parce qu'ils viennent de plus près, mais il y a aussi des gens de Bilbao que j'ai croisés comme ça. Et il y a vraiment des gens qui viennent tous les ans pour ce festival, précisément parce qu'il a une couleur particulière, il y a une ambiance particulière.
Complètement. Alors tu parlais un peu de ton parcours et des différents pays latins que tu as voyagé. Est-ce que tu as pu avoir des échanges avec Eric parfois sur la programmation artistique? Est-ce qu'il y a pu avoir des mises en contact, des mises en relation de groupes que tu pouvais connaître?
Ben,
est-ce que tu auras un exemple
précis? Au tout début, ben, par exemple, la Sonora Ponceña. Alors tu me disais tout à l'heure une anecdote, c'est peut-être pas le moment de la raconter, mais je la raconte maintenant. Avec la Sonora Ponceña, ça devait être la deuxième année du festival, ça devait être 95, si mes souvenirs sont exacts. Et en 95, c'était encore artisanal, il y avait une petite... Et moi, je connaissais très, très bien la Ponceña parce que j'étais restée longtemps à Porto Rico. J'avais échangé avec eux. Il y avait encore le vieux Papo, Quique Luca, qui était le père, qui est mort à 102 ans, mais il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et donc, c'est des musiciens qui venaient ici, ils étaient contents, ils retrouvaient un peu une ambiance exactement comme pour les fêtes patronales. Ça ressemblait vraiment à ça. Les fêtes patronales à Porto Rico, c'est dans les villages, une estrade, il n'y a pas de garde. Bon, là maintenant, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut, parce qu'on ne peut plus faire sans, parce que légalement, on ne peut plus. Mais à l'époque, c'était ici aussi, à la Bonne Franquette. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de guichet. Il y avait des guichets, il fallait prendre sa place. Mais il n'y avait pas de la sécurité, des machins, des contrôles tous les 3 mètres. Et à Porto Rico, c'était pareil. Donc, ils étaient contents. Le problème, c'est qu'il y avait eu un problème de billetterie. Il y a un problème de caisse qui n'est pas arrivé à temps. Parce qu'au début, il faut bien dire, hein, le festival, il marchait comme il pouvait. Et donc, c'est vrai qu'il dépendait beaucoup. Il payait les musiciens en complément avec la billetterie. Et donc, Bon, l'argent n'était pas arrivé avant que les Portoricains montent sur ça. C'était Portoricain. La Sponseña, c'est Porto Rico. C'est des musiciens qui se sont fait avoir 25 000 fois.
D'accord.
Parce que, bon, voilà, ils ont truand. Donc, ils avaient reçu leur avance avant, mais ils n'avaient pas. Normalement, ils ne montent pas sur scène avant d'avoir été entièrement payés. Et donc, Papo Luca, le directeur musical, avait dit « Ah ben non, on ne monte pas ». Alors, ils viennent me chercher complètement catastrophés. Maya, il ne veut pas monter sur scène.
Oh là là. Voilà. Alors qu'ils étaient prêts, le public était là. Et
le public était là, c'était plein. Oh oui, là. Non, parce qu'à l'époque, c'était quand même la Ponseña. Vous faisiez passer ici la Ponseña, ou dans le sud, ils ne venaient jamais. Là, maintenant, il y a des concerts et des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était... C'était des ovnis ici, au milieu de nulle part. Donc ça venait de tout le Gers, de Toulouse, de Bordeaux, de partout.
Alors là, comment s'est débloquée la
situation ?
C'était
plein à croquer. Bah, ça a été mon rôle. C'est-à-dire que c'est portoricain. Enfin, je veux dire, ils me connaissent depuis longtemps. Je leur ai dit, écoutez, je vous jure, je vous assure que vous serez payés. Parce que là, il y a la moitié. Il reste encore une autre moitié. On vous la donne quand vous... Même si vous faites une pause, non, mais on ne fait pas de pause. Ça, je savais. Donc, ben, à la fin, vous descendez. Je vous le dis, moi. Bon, alors là, bon, ils ont fini. Et là, je leur ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes portoricain, vous aimez cette musique. C'est vous qui l'a faite, c'est vous qui l'a portée. C'est même pas New York. Vous n'êtes pas dans les trucs États-Unis. Vous êtes des vrais portoricains qui vivent à Porto Rico. Et vous ne pouvez pas faire ça. Regardez, le public est venu de partout. Vous ne pouvez pas dire que vous ne montez pas sur scène. Et alors Papo Luca m'a dit, bon, écoute Maya, je te fais confiance. Il a convoqué tous les autres. Il a dit, on monte. Maya nous dit qu'on peut monter. Ils sont montés sur scène. Ils ont fait un concert monstrueux. Absolument magnifique. Ils ont joué jusqu'à point d'heure parce que, bon, à l'époque, c'était moins, si tu veux,
moins cadré,
calibré
au
niveau des horaires. Il n'y avait pas tous les trucs de off. Il y avait du off, mais pas, il n'y avait pas toutes ces choses, la conga, le machin, tout ça. Et voilà. Et ils ont été payés, bien sûr, parce que c'était juste un ajustement à faire de dernière minute, parce qu'il fallait transformer ça en dollars. C'était ça le problème. L'argent, il était là, mais il était là. C'était des francs. Et tout n'avait pas pu être transformé.
Converti
en dollars.
En la bonne monnaie.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ça, c'est une anecdote dont je me souviendrai toujours.
Parce qu'elle est vraiment forte.
Mais il y en a eu beaucoup avec Cheo Feliciano, avec, qui est venu aussi. Bon, je ne sais pas si les gens qui connaissent la salle, ça doit leur dire quelque chose. Celia Cruz est venue ici, Revareto est venu ici. Tous les grands de la salsa qui sont venus ici, et côté cubain, n'en parlons pas, c'est pareil. Toute la vieille garde cubaine, avant le Buena Vista Social Club, étaient venus jouer à... Voilà, donc... Ouais. Bon, là, maintenant, ça a évolué, parce que ça évolue... Les conditions sont plus du tout les mêmes, ça n'aurait échappé à personne que les voyages ont énormément augmenté, c'est plus possible de faire venir des groupes comme avant. Vous ne faites pas venir un orchestre de New York, à côté, plus un orchestre de Porto Rico, plus un orchestre de Cuba.
C'est plus possible.
Donc les programmations se font sur des gens qui sont éventuellement en tournée.
Bien sûr.
La Excelencia, par exemple, ce soir, c'est une exception parce qu'eux, ils viennent... Directement de New York, parce que c'était. Mais c'est les seuls. Les autres étaient tous en tournée. Alors, pas forcément en France, parce que ça peut être en Europe. Et donc, Lila Downs, par exemple.
On la retrouvera au bout du monde la semaine prochaine, Maya, à Crozon. Comme Joao Selba au Total Hip Replacement et Anon Coco.
Magnifique concert, magnifique personne, grand art. Enfin, bon, j'en dis pas plus parce que c'était un grand moment d'émotion.
Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est compliqué. La Excelencia, c'est des années de discussion pour les faire venir ou c'est des mois de discussion? Comment ça se fait pour ce genre de groupe qui ne vient que pour Tempo Latino?
De toute façon, les programmations commencent dès septembre. On commence dès septembre pour le festival. Et les tractations et l'histoire des contrats, et mettre au point des contrats, et savoir vraiment cadrer les choses, parce que si on prend les billets d'avion au dernier moment, ils coûtent 3 fois plus cher. Voilà, c'est maintenant, c'est tout est comme ça. Ouais. Et c'est vrai que les programmations ont changé, mais bon, la salle, ça n'est plus à la mode comme elle l'était il y a quelques années. Donc le festival s'est ouvert. Ouais. Il s'est ouvert sur des groupes qui ont... Bon, Lila Downs, c'est une immense dame, mais Lila Downs, ça fait 20 ans qu'ils veulent la faire venir.
Ouais, ça fait...
Voilà. Là, ouais. Et ça, c'était une occasion cette année, parce qu'elle était, bon, quelque part en Europe, je ne sais plus très bien où, mais elle était... Bon, elle n'était pas très loin, donc c'était possible. Bon, Lavilliers, c'est Lavilliers. C'était aussi quelque chose qu'ils voulaient de faire depuis longtemps, mais qui ne s'était jamais fait. Ouais. Et sinon, l'orchestre à Baobab, il tournait tout autour. Ça, c'était un grand moment cette année. Moi, j'ai trouvé que c'est tellement bien rafraîchissant, très... Enfin, je sais pas. Ça mettait du
baume au cœur.
Oui, du baume au cœur. Ça remplissait l'esprit. Tout le monde souriait.
C'est ça.
C'était vraiment de la très, très belle musique. Voilà. Et puis, il y a tout le off autour. Bon, ça, tes auditeurs connaissent.
Cap Tempo et Conga, hein, c'est toujours des belles découvertes, effectivement.
Il y a vraiment des découvertes. Les Ramblas qui viennent du fin fond de l'Amazonie, de l'Amazonie péruvienne, mais de l'Amazonie. Moi, je les connaissais d'avant parce que j'avais été en contact avec un peu des musiciens du Pérou et des musiciens de cumbia amazonique, comme on dit, du Pérou, mais bon, c'est... Voilà. Et là, Brésil, cette année, mais c'est vrai, c'est bien, parce que le Brésil revient à une sonorité à la mode. Enfin, je veux dire, si on écoute un peu les radios, la musique brésilienne revient. C'est comme ça, il y a des comebacks, des cycles. Donc c'est de nouveau un cycle brésilien. La musique d'été est plus brésilienne que... Mais il faut dire qu'en salsa, ça ne se renouvelle pas énormément.
C'est ça.
Alors il y a d'excellents groupes en Europe, mais bon, il faut les connaître, les découvrir, les choper, voir qui les... Il y a un problème de manager, parce que y a des managers qui sont des catastrophes. Et dans les festivals... Je veux dire, tous les ans, il y a un problème. Alors, est-ce que c'est il y a toujours un problème. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi, mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un groupe où c'est un manager qui s'est inventé manager. Il y a encore eu un exemple l'année dernière où c'est des managers connus. La musique latine, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de grande boîte de management, de production. Qui les prennent en main. Et il y en a eu à l'époque où c'était la grande mode. Et il n'y en a pratiquement plus. Donc c'est des petites productions qui peuvent être extrêmement efficaces, comme les labels indépendants, mais qui posent un problème parce qu'on ne sait jamais exactement sur qui on tombe. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Est-ce que tu connais un tel et une telle? Parce que j'ai la réputation de dire ce que je pense, ce qui m'a valu beaucoup d'inimitié, mais quand même aussi énormément d'amitié. Parce que moi, je pense qu'il faut dire, et même aux artistes, quand je les connais bien, hein, sinon je ne me permettrais pas, mais les artistes que je connais bien, si je trouve que le concert n'a pas été à la hauteur, je leur dis, écoute, la prochaine fois, il faudra faire mieux. Ouais. Non, mais là, ce n'est pas le cas. Mais ça m'est déjà arrivé. Mais bon, je rigole.
Est-ce que tu verrais, tu parlais justement de la dimension salsa qui évolue avec le temps, est-ce que tu verrais le festival devenir un peu plus hybride, par exemple en s'ouvrant, alors on a parlé du Brésil à l'instant, je sais que quand on se balade dans les rues, en dehors du festival par exemple, ou sur des scènes un petit peu collées au festival, on voit aussi de la danse comme de la bachata par exemple, qui sont des styles un peu différents de la salsa, est-ce que pour toi, tu verrais une ouverture de cette identité, ou il faut qu'elle reste pour toi davantage sur cette salsa?
Alors, je ne vais pas parler de mon cas personnel, de moi, ce que je pense, mais ce que les discussions que je peux avoir avec les gens du festival...
Voilà, il n'y a pas de jugement, hein, c'est vraiment une question...
Le festival, son critère, c'est la bonne musique. Donc, la bachata, c'est hyper à la mode. Il y a une certaine bachata qui peut être... Bon, c'est Juan Luis Guerra. Il fait de la bachata. Mais bon, c'est grand art. Sauf que Juan Luis Guerra, il demande des cachets qui ne sont pas...
envisageables.
Ben oui, voilà, envisageables pour le festival. Donc, voilà. Après, le reggaeton, qui est très
c'est
à
vrai.
La mode. Mais si c'est pour entendre... Parce que les paroles, il ne faut pas comprendre l'espagnol. Parce que si on comprend l'espagnol, moi, je refusais de passer du reggaeton dans mes programmes parce que je ne veux pas passer de trucs qui parlent, enfin, qui sont insultants pour les femmes et qui ne parlent que, je ne voudrais pas dire un gros mot, mais que de sexe pour parler.
Ouais.
Voilà, bon, je ne vois pas l'intérêt. Et c'est dramatique pour quelqu'un qui aime la culture latine de voir que tout se réduit. Les femmes latines, ce sont des bombes sexuelles. Il n'y a qu'à regarder, bon, enfin, quand je regarde à la télé Trace Latina, bon, moi je suis révulsée, non pas par morale, mais parce que ça me fait mal que ça soit réduit à ça. Et donc ces musiques, elles expriment ça. Donc ça n'a rien à voir avec un jugement moral, mais elles se réduisent à ça, les paroles sont nulles, enfin, ou insultantes, ou bon, inintéressantes de toute façon, et la musique est totalement répétitive. Donc dans le lot, par exemple dans le hip-hop, il y a des choses absolument magnifiques, mais bon, un truc comme Sima Funk, on aime ou on n'aime pas, mais ce sont des musiciens, c'est des monstres musicalement. Et ça joue. Bon, après, on dit chacun ses goûts. Mais quelqu'un qui aime la musique, c'est de la musique. Voilà. Et c'est la différence avec un groupe qui va être complètement décontrôlé, qui va faire n'importe quoi. Voilà.
Il y a une dimension.
Il y a une réelle dimension.
Il y a une dimension instrumentale, je pense, qui est inégalable à Tempo Latino et qu'on peut pas,
voilà.
À côté de laquelle on ne peut pas passer.
Donc le critère, c'est ça. Donc la bonne musique, ça peut sauver. Bon, Lavilliers, c'est pas franchement mais Lavilliers, c'est quelqu'un qui représente un univers. Il a eu un lien avec son morceau, c'est la salsa, c'est une portoricaine, voilà. Donc à l'époque, qui est enregistré à l'époque avec les musiciens de Rebarreto, donc grand conguero et qui malheureusement nous a quittés comme beaucoup des pionniers des grands de l'époque. Et voilà, donc oui, il s'est déjà ouvert, à un peu la musique africaine, de l'Afrique de l'Ouest, parce que Baobab, c'est quand même Sénégal, Afrique de l'Ouest. Il y a un lien avec l'afro-cubain, mais ils jouent aussi leur propre musique, ils ont fait un répertoire assez varié hier, ils chantent dans leur langue, et c'est tout à fait dans l'esprit du festival, c'est pas ni de la salsa, mais c'est dans l'esprit de, voilà, c'est de la musique.
C'est de la musique,
voilà.
C'est la fête.
Ça, voilà.
On ne peut pas déroger à la règle.
On ne peut pas déroger à ça. Lila Downs, c'est une immense artiste. Elle ne fait pas des choses, ce n'est pas de la salsa. C'est des chansons, en plus elle présente de la culture de son pays au travers de la musique, de ce qu'elle exprime elle-même. Il y a tout un travail sur
le vestimentaire.
Sur le vestimentaire. Voilà, c'est de l'art. Voilà, c'est ça le critère, je pense, de Tempo depuis toujours. Donc, il ne faut pas crier au sacrilège s'il y a... Bon, la salsa, à l'heure actuelle, elle n'est plus à la mode. Tempo se fout de la mode, mais quand même, ça veut dire des choses sur les orchestres qui tournent. Après, il y a d'excellents orchestres en Europe. Les excellents orchestres d'Europe, ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ils tournent en Amérique latine, parce que en Amérique latine même... ou même à New York, les orchestres new-yorkais qui restent, ils vivent des tournées à l'extérieur plutôt que des tournées aux États-Unis même. Or, des groupes européens arrivent à tourner aux États-Unis, alors dans des plus petits clubs, mais ils arrivent à tourner parce que c'est quelque part, je ne sais pas, une autre je ne sais pas si aux États-Unis c'est exotique. Ouais. Pour eux, c'est très très possible. Mais un orchestre, bon, il y a des orchestres de, il y a un orchestre de Strasbourg, il y a plusieurs orchestres qui sont basés en Espagne et qui tournent non, d'ailleurs beaucoup plus en Europe et à l'extérieur que même en France même. Parce que je pense qu'en France même, on a vraiment un problème. Alors dans le Sud, moins, parce que dans le Sud, il y a une proximité culturelle. Mais à Paris, c'est un peu une catastrophe.
Il y a un gros travail à faire, ouais, d'ouverture.
En revanche, à Paris, bon, le jazz latin, tout ça, ça oui, parce que ça s'est toujours fait dans des petits clubs de petite dimension. Voilà, mais sinon il y a un gros problème de management et de salles et de prix des salles. Enfin bon, c'est tout le problème de la culture générale, hein, en général.
Alors Maya, tu nous as donné une vraie page d'histoire sur le festival et sur toute cette dimension culturelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où t'es venue cette passion, voilà, l'origine de ta passion pour cette culture afro-cubaine ?
Bah, écoute, ça m'est venu de petite, parce que petite, j'avais une copine qui était antillaise à l'école. Et donc, on faisait des goûters le dimanche, elle m'invitait et ses parents n'écoutaient que de la vieille musique cubaine, c'est-à-dire la musique cubaine à l'ancienne, beaucoup d'orchestres avec les flûtes et les violons, la charanga et tout ça. Et donc, j'ai connu cette musique-là, j'adorais cette musique-là. Et donc, comme on était gamines, on commençait à danser. Bon, après, il y a eu, certes, j'ai vogué vers d'autres choses, mais adolescente, je n'écoutais que de la soul. Ah ben, j'ai 76 ans, donc je vous parle de mon adolescence. C'était 58, 59, 60, 61, 62. Donc voilà, c'était une époque, c'était la grande époque, mais c'était Otis Redding, Aretha Franklin. Et il y avait cette émission pour ceux qui aiment le jazz. J'étais gamine, mais j'étais complètement fascinée. Donc, on venait d'avoir les transistors, ça venait de sortir. Donc, les jeunes doivent se dire qu'est-ce qu'elle raconte. Ben, c'était des petits postes qu'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre, contrairement aux gros engins qu'il y avait dans les familles. Et donc, je planquais ça sous mes draps le soir et j'écoutais pour ceux qui aiment le jazz. Et bon. C'était, voilà, je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai, depuis toujours, bon, les sorciers m'ont expliqué des choses, mais bon, depuis toujours, cette espèce de lien complètement charnel avec tout ce qui est percussion d'origine africaine. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, j'écoutais du blues, il y a toujours ce truc du rythme, de la percussion, du tambour. Il y a quelque chose avec le tambour. Depuis le début, j'ai un problème. Enfin,
quelque chose qui te transcende, qui fait résonance en toi.
Voilà, qui résonne d'emblée. Bon, ça a toujours été. Donc, c'est inexplicable, mais c'est des choses qui arrivent.
Un peu comme les chamans, finalement. Hein, parfois, au son des percussions, on ressent des choses très fortes, voilà, d'une certaine manière.
Il y a un peu de ça. Et en plus, j'étais à l'époque quand même, moi, les gens de ma génération, ils écoutaient, Chuck Baker, les Rolling Stones, les Beatles. Bon, moi, je connaissais, bien sûr, parce que bon, ça passait sur les radios, mais c'était pas ça. Le rock n'a jamais été ma musique. Alors, c'est sans doute un défaut, mais j'ai jamais été attirée par le rock. Pourtant, dans le rock, il y a du rythme, mais non, il y a quelque chose qui manque. Alors, j'aime bien, je peux aller dans un concert, mais c'est pas ma musique. Et donc, j'ai continué, et puis bon, l'appel de l'Amérique latine. Après, bon, j'étais prof, j'ai pris 5 ans de congé pour condense personnelle, je suis partie sans solde, et je suis partie, quoi, et c'est là que je suis partie. Et à Porto Rico, à Saint-Domingue, à Cuba. Et Cuba, c'était Cuba 79-80. Donc c'était un Cuba où il n'y avait pas de tourisme encore. Enfin, c'était un Cuba qui n'avait rien à voir avec le Cuba d'aujourd'hui. Et là, j'ai connu toute la génération, toute la genèse de ce qu'on voit maintenant sur les scènes à Cuba. Et là, Cuba, j'y suis retournée tous les ans. J'ai fait un travail tous les ans sur la musique, bon, qui aboutit à un livre qui sortit en 98, juste avant le Buena Vista Social D'accord. Club, d'ailleurs. Mais qui est épuisé depuis longtemps, qui a été réédité puis épuisé dans une collection qui n'existe plus.
Aujourd'hui, on ne peut plus le trouver.
Alors, j'en ai racheté un exemplaire sur Internet. À moi, pour moi.
C'est fou.
Mais oui, parce que j'en avais plus. Et puis, bon, j'ai eu un souci d'incendie avec tout qui a cramé. J'ai réussi à le retrouver, mais il y avait quelqu'un qui vendait encore ce livre. Voilà, mais bon, c'est ça. Je n'ai jamais vraiment expliqué. Et ensuite, c'est les circonstances de la vie. J'ai toujours, en fait, vécu avec beaucoup d'étrangers. Donc après, j'étais prof à Aix-en-Provence, enfin Marseille-Aix-en-Provence. Donc on avait un groupe de latinos, des latinos exilés d'un peu partout, parce que c'était la dictature un peu partout. Donc il y avait des Argentins un peu fous qui jouaient des congas, parce que les Argentins ne jouent pas forcément des congas. Mais hier, il y avait un magnifique batteur argentin et qui jouait comme un dieu avec Sima Funk. Il y avait des Colombiens, des Portoricains, enfin il y avait un peu de tout. Et on se faisait nos fêtes, quand on n'avait pas de sous, on se faisait nos fêtes entre nous. On faisait une cagnotte, on faisait des spaghettis. Chacun venait, à l'époque c'était les cassettes, avec sa musique. On prenait ils prenaient des instruments, n'importe quoi, une table, une chaise, un truc. Et on se faisait des soirées comme ça. Et c'est comme ça que la salsa, je suis venue à la salsa, parce que j'étais vraiment Cuba. Là, je suis avant d'être... J'en suis en 72-73, ouais. Quand la salsa est arrivée. Et donc, la salsa, ça a été un coup de cœur. Bon, voilà, donc je me suis mise à acheter des disques, à chercher tout ça. Et puis, quand je suis partie à Porto Rico... New York, j'y suis allée plus tard, mais il y avait énormément d'orchestres à Porto Rico. Donc, New York, j'y suis allée qu'en 88-90. J'ai fait New York latino, quoi. C'était encore possible. Et après, ça a basculé dans ce qu'on appelle la salsa romantique. Bon, tout ça, c'était plus la salsa des rues, c'était plus la salsa... Parce que la salsa, c'est pas un rythme, hein, c'est un mélange de rythmes. Et l'origine, c'est... Ça sort de la rue et ça raconte les problèmes de la communauté latine aux États-Unis. Donc quand cette communauté latine, elle évolue, et les nouvelles migrations latines, la grosse migration, c'était Porto Rico. Donc c'était ça, c'était Porto Rico qui produisait cette salsa urbaine en se mélangeant avec, il y avait des Colombiens et autres. Mais l'immigration d'après, ça a été plus Mexique. Après, ça a été Haïti. Après, voilà. Il n'y a plus la même... Je veux dire, c'est pas les mêmes rythmes d'origine qui arrivent. Et ça se mélange différemment. Et ceux qui portent aujourd'hui les revendications sociales que reportait la salsa à l'époque, c'est une partie du hip-hop et du rap qui est hors du gangsta rap. Parce que le gangsta rap, n'en parlons pas. Mais il y a de la vraie production à Porto Rico. Et les jeunes, c'est plus ça leur expression. Le slam est ça. Et les jeunes, ils s'expriment comme ça. Ils peuvent faire des samplers avec de la vieille salsa qui remixe, parce que ça existe. Il y en a beaucoup qui font ça, parce que c'est la musique des parents, parce qu'ils aiment aussi cette musique. Mais pour eux, ce n'est pas leur musique. Leur musique, leur expression musicale, c'est autre chose. Voilà. Et donc là, c'est des Portoricains qui viennent de quartiers pas très riches. Et les Portoricains qu'on va voir ce soir, et ben eux, ils refont ça parce que c'est leur racine. Ouais, c'est voilà.
Profondément ancré en eux. Juste pour terminer cette interview, Maya. Alors, ouais, on va une dernière question, ou alors on l'arrête là, peut-être par rapport au timing. Une dernière. Est-ce qu'on peut trouver une trace des émissions de radio que tu as pu monter? Est-ce qu'il y aurait encore des sons qu'on pourrait entendre de toi si on fait des recherches?
Écoutez, j'en doute parce que j'ai tout fait tout ça. J'ai commencé, c'était des vinyles. Après, les radios ont viré les vinyles, il y a eu des CD. On enregistrait. Moi, j'ai des tonnes de cassettes que j'enregistre, que j'ai d'ailleurs plus rien pour les écouter. Donc,
il faudrait les numériser. Voilà.
Eh ben, numériser, moi j'ai... Je faisais des émissions, mais pour les radios partenaires de RFI. Donc, il faut des codes particuliers pour rentrer, pour les écouter sur le fil RFI. Les dernières programmations que je faisais dans les 5 dernières années. Mais malheureusement, non, je pense pas. Il y avait. Ben non, j'ai arrêté là en 2000. Je sais plus, 17, 18, 18.
Pas très longtemps.
Mais ça, c'est le fil RFI où on n'a pas accès directement.
Ouais.
Et ce que j'ai fait avant, où j'animais vraiment sur les radios associatives, c'est parti en fumée. Alors, il y a des gens qui ont enregistré. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient encore des cassettes.
D'accord, ils avaient enregistré. Tu peux juste nous redonner le nom de ce que tu as fait. On arrêtera là-dessus.
Alors,
le nom des émissions.
Des émissions, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand j'étais... à Aix-Marseille, ça s'appelait, je sais plus, King Camache, je crois. C'était un thème de Eddie Palmieri. Après, je faisais Sandunga. Alors, ça s'appelait Sandunga parce que c'était le thème de Los Bambas en Sandunguera. Et puis il y avait un qui s'appelait Salsanama. Et qui lui était une émission où je faisais des, où je racontais l'histoire de, d'un orchestre. Donc j'avais une heure Salsanama, c'était un peu plus culturel, et l'autre émission c'était plus pour danser et tout ça, même si je racontais un petit peu quelque chose sur chaque rythme, une anecdote sur les musiciens et voilà.
Parce que Maya était danseuse aussi.
Ah oui, ça, j'aime danser.
Ah, salsa, c'était quelque chose qui t'a aussi beaucoup suivi dans ta carrière.
Ouais. Oui, mais moi, j'ai jamais appris à danser ailleurs qu'avec dans la rue. Voilà. Et je trouve que dans les écoles de danse, on n'apprend pas aux gens, aux danseurs, à suffisamment à écouter la musique.
La musicalité.
Et donc, ils n'écoutent pas les phases de la musique. Et donc, ils se mettent à tourbillonner dans tous les sens. Alors que ça n'a aucun sens de se mettre à tourbillonner sur l'introduction, parce qu'il faut attendre qu'il y ait le break et que l'orchestre, les cuivres rentrent. Enfin, voilà, il faut savoir écouter la musique, la structure des trucs musicaux pour calquer sa danse dessus.
Exact.
Voilà, donc j'ai du mal à danser avec des gens qui ont appris dans les écoles. Mais et puis bon, j'ai plus le souffle que j'avais à l'époque, mais c'est vrai que j'adore toujours danser.
Bon bah merci beaucoup Maya. La Excellencia pour nous maintenant, peut-être autour d'un petit pas de danse, et merci pour cette belle page d'histoire et la présentation de ton parcours de vie. À très bientôt Maya.
Merci à toi, hein.
Merci.
Et puis bonne chance pour ton émission. J'étais très heureuse de vous rencontrer déjà l'an dernier. Et puis
merci.
Voilà, bon, ben, on se retrouve cette année, c'est super.
Et l'année prochaine, pour avoir ton avis sur la prochaine programmation 2024.
Voilà, ben, écoute, longue vie et à vous et
merci.
À votre radio et
merci.
Puis à tous les festivals magnifiques
voilà.
À venir et présents.
Qu'on continuera de suivre. À bientôt, merci.
Merci.
Esperanza. Escucha, ay cómo suena la clave.
Escucha el bebé, la rumba empezó.
La excelencia te trae salsa dura de la
y
calle.
Y para ti, y cuero al tambor.
Con clase, sabor y mucho detalle.
Escucha el bebé, la rumba empezó.
En este rumbón, no hay quien falle.
Y para ti.